DW. Économie et développement.
Reconstitution des réserves halieutiques, une solution cruciale pour assurer la durabilité des ressources aquatiques. L'épuisement des populations de poissons et d'autres organismes exploités pour des fins alimentaires et d'autres usages industriels entraîne des conséquences socio-économiques énormes, avec notamment la perte de biodiversité, un déséquilibre écologique et une insécurité alimentaire pour les communautés qui dépendent de la pêche. Face aux répercussions actuelles engendrées par cette situation, les pays se voient contraints d'opter pour des mesures qui contribuent à restaurer les populations de poissons et à garantir leur disponibilité à long terme. Ce sera l'essentiel à aborder dans ce numéro d'économie et développement. C'est Rodriguez Odia au micro. Bonjour et bienvenue.
DW.
La pêche et l'exploitation des ressources halieutiques représentent un des piliers importants des économies en Afrique. Dans nombre de pays, le secteur contribue énormément au produit intérieur brut. Il constitue non seulement des sources d'emplois directes, mais aussi et surtout des moyens de subsistance pour des milliers de familles. En 2018, la production de la pêche de capture sur l'ensemble du continent avait atteint les 8 millions de tonnes, selon les données de la Banque mondiale. Mais depuis, les chiffres ont considérablement chuté. On observe une réduction inquiétante des stocks de poissons disponibles pour la pêche. Nous en parlons justement avec un spécialiste du secteur. Je me permets de le laisser d'abord se présenter.
Je vous remercie. Je suis Moussa Mbeng, secrétaire exécutif de l'Association Ouest-Africaine pour le développement de la pêche artisanale, ADEPA.
Moussa Mbeng, quelles sont les causes de l'épuisement des réserves halieutiques dans nos cours d'eau aujourd'hui?
Ce qui me paraît en tout cas, de mon point de vue, comme étant la cause principale, est la surcapacité de pêche. Cette surcapacité de pêche est consécutive à un défaut de maîtrise de la capacité de pêche qui se manifeste par une augmentation du nombre de navires de pêche artisanale et de pêche industrielle dans nos océans. À cela s'ajoutent des pratiques de pêche irresponsables, ce qu'on appelle des mauvaises pratiques de pêche, des difficultés d'application des lois et des règlements. On ne peut pas également ne pas pointer du doigt ce que j'appelle une capacité de pêche indirecte. Cela veut dire ces entreprises, ces usines de farine de poisson qui sont en train en tout cas de s'installer ça et là et qui, comme vous le savez, ciblent les ressources pélagiques côtières. Et ceci pousse les pêcheurs de plus en plus à capturer ces espèces pélagiques qui sont orientées vers les usines de farine de poisson, ce qui contribue de façon pernicieuse à un épuisement de ces stocks-là.
Vous venez d'évoquer les espèces pélagiques. Il faut préciser pour les auditeurs qu'il s'agit des espèces qui vivent dans les eaux proches de la surface, c'est-à-dire qui n'aiment pas les profondeurs. La sardine, par exemple, le thon, le maquereau, sont des poissons pélagiques. Alors, quelles sont les conséquences de ces facteurs que vous venez d'évoquer pour les populations et l'économie des pays?
Les professionnels de la pêche artisanale éprouvent de plus en plus des difficultés pour trouver le poisson. Leurs activités baissent. Le revenu dégringole. Ils n'arrivent plus à tirer l'épingle du jeu. Ces comités de pêche artisanale s'appauvrissent de plus en plus. Du point de vue aussi social, les populations n'arrivent plus à trouver le poisson pour se nourrir convenablement. Ce qui n'est pas sans provoquer d'autres effets sur le plan sanitaire. Au niveau des États, la contribution, n'est-ce pas, du secteur des pêches à l'économie pose problème de plus en plus. Des conflits font rage entre les différentes catégories d'acteurs à cause de leur course effrénée vers une ressource qui se raréfie de plus en plus.
C'est justement pour cela que de plus en plus de pays mettent en place des mécanismes pour permettre la reconstitution des réserves halieutiques. Nous verrons d'ailleurs dans un instant, à travers un reportage, le cas des pays qui se partagent le lac Tanganyika. Tanganyika, où les activités de pêche seront prohibées sur une période donnée. Mais quelle est l'importance de la reconstitution de ces ressources, selon vous?
Bon, il est important de noter effectivement que de plus en plus, la co-gestion des ressources halieutiques, qui, comme vous le savez, est une approche participative dans laquelle l'État et les communautés autres parties prenantes, n'est-ce pas, collaborent dans la gestion des ressources. Cette cogestion est aujourd'hui au cœur, n'est-ce pas, de certaines politiques publiques de pêche au niveau de certains États. On peut penser également aux différents plans d'aménagement qui sont élaborés et dont leur mise en œuvre est appuyée pour en tout cas restaurer les ressources. Et ces plans d'aménagement ciblent les espèces surexploitées. Et tout ceci a produit en tout cas des résultats probants. Par exemple, si vous allez au niveau de la Guinée, on constate effectivement et fort heureusement que la ressource halieutique est en train d'être restaurée.
Avez-vous le sentiment qu'avec les dispositions au niveau des États, on parviendra un jour à mettre fin à la surexploitation des réserves?
Ah oui, je suis très optimiste, hein, malgré que la situation elle est difficile. Je pense qu'effectivement, on peut arriver à bout de cette surexploitation des ressources halieutiques. Les ressources halieutiques, ce sont des ressources renouvelables. Il suffit juste de les gérer durablement, normalement, pour que ces ressources se restaurent. J'ai bon espoir qu'effectivement, on peut arriver un jour, en tout cas, à renverser la tendance.
DW.
Moussa Mbeng se disait dans la première partie optimiste pour l'éradication de la surexploitation des ressources halieutiques. Le lac Tanganyika connaît un appauvrissement des réserves de poissons estimé à 38% depuis 1946, suite aux effets conjugués de la surpêche et du changement climatique. C'est ce qui justifie la suspension prochaine des activités de pêche sur ce lac. Cette mesure, qui devrait durer au moins 3 mois, a été prise par les 4 pays riverains du lac. Le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie. Elle vise donc à terme à augmenter la production de poissons et à assurer une gestion durable des ressources aquatiques. Mais elle ne sera pas sans impact sur l'économie nationale et notamment l'activité économique des pêcheurs et des marchands de poissons. C'est un reportage d'Antéditestre Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
Nous sommes au bord du lac Tanganyika, le deuxième plus grand lac africain par la surface après le lac Victoria, le troisième au monde par le volume et le deuxième au monde par la profondeur. Le plus long lac d'eau douce au monde avec ses 667 km, qui contient également 20% de la réserve d'eau douce libre de surface du monde, nourrit grâce à sa biodiversité unique les populations des 4 pays de l'Afrique subsaharienne, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Zambie et le Burundi. Côté Burundi, le Tanganyika est l'un des 4 lacs qui arrose le pays, avec une superficie des eaux de pêche d'au moins 2500 km². La pêche, justement, s'étend sur tout le littoral du lac Tanganyika, avec au moins 18 plages de pêche, un secteur dans lequel exercent plus ou moins 40 000 travailleurs. Israël Akizimana est un pêcheur sur le lac Tanganyika, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Il y vit de la pêche depuis son enfance. Suspendre l'activité revient, estime-t-il, à mettre un terme à la survie de sa famille.
Moi personnellement, j'ai 43 ans, avec 4 enfants sous le bras, dont 3 écoliers. Rien d'autre ne permet à ma famille de vivre, de scolariser mes enfants, de les soigner en cas de maladie, de les vêtir, si ce n'est que la pêche. Si Dieu me bénit, je peux avoir 15 000 francs burundais. Vu la hausse des prix et des denrées alimentaires au marché, cet argent suffit juste pour une journée. Je peux par hasard épargner 2 ou 3 000 francs. Pendant les 24 jours de travail, je peux épargner plus ou moins 50 000 francs. Si j'encaisse 50 000 francs, j'essaie de les gérer pendant 3 ou 4 jours de la semaine de suspension de la pêche. Pendant les jours restants, c'est soit de l'austérité en famille, ou soit je m'endette auprès d'un bouquetier pour lui rembourser à la reprise de la pêche.
La vie d'Israël est le reflet de la survie de tous les pêcheurs burundais. Ce sont des employés sans épargne ni accès au crédit bancaire, leurs gains sont journaliers. La suspension de la pêche doit avoir de lourdes conséquences socio-économiques sur les entreprises de pêche, les pêcheurs et leurs familles, les transporteurs de poissons qui se retrouveront au chômage. Mariam Sadiki est une revendeuse de poissons depuis plus d'une décennie. Sans la pêche, pas de poissons. Sans poissons, c'est la vie qui est aux arrêts, s'inquiète cette femme de 42 ans.
Les vents s'élèvent sur le Tanganyika là. Maintenant, on ne pêche plus, les poissons ça s'augmente du prix. Nous sommes ici pour les poissons. S'il n'y a pas de poissons, nous sommes vraiment en difficulté.
Les poissonniers et les revendeurs de poissons font partie du maillot de la chaîne de vente et de commercialisation. Jean Bosco Sengioumva trouve difficile cette décision de suspension des activités de pêche sur le lac. même si elle est temporaire.
Le gouvernement doit nous trouver d'autres moyens de substitution pour nous occuper pendant les mois de suspension de la pêche, pour que nous puissions payer les frais, loyer, la scolarisation des enfants, et que tous ceux qui vivent des ressources du lac puissent survivre pendant les 3 mois.
Les responsables du projet d'aménagement de la pêche sur le lac Tanganyika ont indiqué qu'il y a une baisse très sensible de la production de poissons au cours des dernières années dans la région, du fait surtout de la capture abusive des jeunes poissons appelés alevins. La suspension de la pêche qui émanerait d'une décision collective des 4 pays riverains va donc favoriser une bonne reconstitution de la biodiversité de ce lac. Cela exige également une prise de conscience collective des populations des États concernés. C'est ce que pense aussi Didier Kadeli, coordinateur du projet régional intégré d'amélioration de la qualité des eaux du lac Tanganyika et de son bassin basé à Bujumbura.
Nous ne pouvons pas dire que le lac Tanganyika est actuellement protégé. Nous n'y sommes pas encore. La solution ne va pas être apportée par un petit projet de 7 millions d'euros, mais par une conscience collective et des activités conjointes entre les États membres. C'est le plaidoyer que nous portons et c'est la mission de l'autorité du lac Tanganyika.
Le secteur de la pêche est censé être prometteur pour l'économie nationale. Entre 2017 et 2019, par exemple, il devait apporter au moins 18,3 milliards de francs burundais de recettes fiscales selon l'Institut de statistiques et des études économiques du Burundi. Mais les recettes ont chuté et la taxe sur le poisson vendu n'a même pas été prévue par les lois des finances de 2019 à 2021. Les redevances de permis de pêche prévues dans les lois budgétaires ont diminué jusqu'à 99,6% en 2021. En cause, la chute des captures provoquant une baisse de production de 23% depuis 2016. Ont édité Stenira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Et c'est avec ce sujet d'entédité Stenira Gira que nous allons mettre un terme à ce numéro d'économie et développement. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. Je vous remercie de suivre les programmes de la DW, la radio internationale d'Allemagne. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.